de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Des étapes, voici le kaléidoscope 2023. Nous commençons par le 9 janvier 2023. Le 9 janvier, le président Joko Widodo a reçu la visite du premier ministre Mali, Datuk Seri Anwar Ibrahim, au palais présidentiel de Bogor, à l'ouest de Java. La visite du premier ministre Mali a abouti à 6 accords, dont l'engagement de la Malaisie à participer à la construction de la nouvelle capitale nationale, IKN Nusantara, à Kalimantan Oriental. La Malaisie s'engage également à assurer la protection des travailleurs migrants indonésiens en Malaisie. Les deux pays ont également convenu de poursuivre les discussions sur les frontières terrestres des segments sabbatiques et Sinapad, ainsi que les accords sur la mer de Sulawesi et le détroit de Malacca. La Malaisie soutient également l'accord de la région d'information de vol FIR Indonésie-Singapour. L'Indonésie et la Malaisie coopéreront également pour accroître le marché de l'huile de palme et lutter contre la discrimination à l'égard de l'industrie de l'huile de palme par le biais du Conseil des pays producteurs d'huile de palme, CPOPC. Les deux chefs d'État sont également convenus de renforcer l'ASEAN afin qu'elle puisse jouer un rôle central et créer une région Indo-Pacifique, pacifique, prospère et juste. Le 11 janvier, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a reçu la visite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération de Timor-Leste, Adelgiza Albertina Xavieres Manyu, à Jakarta. Au cours de la réunion bilatérale, plusieurs questions ont été discutées, entre autres les efforts visant à accroître la coopération économique et à résoudre les frontières terrestres entre les deux pays. Les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu d'entamer les discussions sur la formation d'un accord commun de zone de libre-échange dans la zone industrielle frontalière entre le district de Ekusé et la province de Nusa Tenggara Est. Ils ont également discuté de l'achèvement de deux segments de la frontière terrestre Indonésie-Timor-Leste. Retno Marsudi a également expliqué les priorités de la présidence indonésienne de l'ASEAN. Auparavant, lors du sommet de l'ASEAN à Phnom Penh en novembre 2022, l'ASEAN avait accepté en principe l'adhésion de Timor-Leste. Le 29 janvier, le président Joko Widodo a joué de l'instrument de musique traditionnelle Betawi, le tambourin biang, en présence de milliers de personnes pour marquer le coup d'envoi de la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023 au rond-point de l'Hôtel Indonesia. Le président Joko Widodo a exprimé son optimisme pour l'ASEAN, même s'il est éclipsé par l'incertitude de la situation mondiale. Le chef de l'État a également souligné que l'Indonésie est déterminée à diriger la coopération de l'ASEAN en 2023 pour poursuivre et renforcer la pertinence de l'ASEAN dans la réponse aux défis régionaux et mondiaux, ainsi que pour renforcer la position de l'ASEAN en tant que centre de croissance économique régionale pour la prospérité des peuples de l'ASEAN. Cette année, l'Indonésie est devenue présidente de l'ASEAN au milieu d'une situation mondiale très difficile. La crise économique, la crise énergétique, la crise alimentaire, la guerre, tout se passe, mais je crois que l'ASEAN reste importante et pertinente pour les peuples, pour la région et pour le monde. Que l'ASEAN continuera de contribuer à la paix et à la stabilité dans la région Indo-Pacifique, que la SIAD continuera à être en mesure de maintenir la croissance économique et les questions de la SIAN, l'épicentre de la croissance. Et en disant Bismillahirrahmanirrahim, ce matin, je déclare officiellement que le coup d'envoi de la présidence indonésienne de la CIAN 2023 a commencé.
Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Bahwa ASEAN akan terus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan ASEAN matters epicentrum of growth. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya nyatakan Head of Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 dimulai.
L'inauguration de la présidence indonésienne de l'ASEAN 2023 est une collaboration entre le gouvernement provincial du DKI Jakarta et le ministère indonésien des Affaires étrangères. Coïncidant avec la journée sans véhicule à moteur avant le coup d'envoi au rond-point de l'hôtel Indonesia, le président a d'abord fait une promenade tranquille à vélo accompagné de la ministre indonésienne des Affaires étrangères et d'un certain nombre de ministres du cabinet de l'Indonésie avancée, du gouverneur par intérim du DKI Jakarta depuis le palais d'État. Ensuite, devant Sarinah, le président Joko Widodo a rejoint la ligne du défilé de Nusantara, marchant ensemble vers le rond-point de l'hôtel Indonésia. Les ambassadeurs des pays amis et les représentants des organisations internationales ont pris part à la ligne du défilé. Passons à février. Le 2 février, l'Indonésie et le Royaume-Uni ont convenu d'une coopération dans le domaine du transport maritime et de la construction navale durable. Le protocole d'accord sur la coopération a été signé par le directeur général du transport maritime du ministère des Transports, Arif Toha Cahyagama, et l'ambassadeur britannique en Indonésie et au Timor-Leste, Owen Jenkins. La signature s'est déroulée en présence du ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi, et du ministre britannique des Exportations, Andrew Bowie, à Jakarta. Le 3 février, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a présenté l'objectif de la présidence indonésienne de l'ASEAN lors de l'ouverture de la 32e réunion du Conseil de coordination de l'ASEAN, ACC, à Jakarta. Lors de l'ouverture de la réunion, Retno Marsudi a déclaré que la présidence indonésienne de l'ASEAN se concentre sur le renforcement de la capacité et de l'unité de l'ASEAN face aux défis mondiaux qui affectent tous les pays, y compris la région Indo-Pacifique. La présidence indonésienne vise à renforcer la capacité de l'ASEAN à relever les défis futurs, renforcer son unité pour mettre en œuvre la charte de l'ASEAN dans son intégralité et pour garantir que l'ASEAN puisse gérer la dynamique géopolitique dans cette région. En plus de transmettre l'objectif de la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également félicité la ministre des Affaires étrangères du Timor-Leste, Adelgisa Manyo, pour sa présence à la série du sommet des réunions ministérielles de l'ASEAN à Jakarta. Selon elle, l'épée de l'ASEAN salue l'adhésion du Timor-Leste à l'ASEAN en tant qu'observateur et prépareront une feuille de route pour l'adhésion à part entière du Timor-Leste. Le 4 février, le président Joko Widodo, accompagné de la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi, a reçu la visite honoraire des ministres des Affaires étrangères des pays de l'ASEAN et du secrétaire général de l'ASEAN au Palais Merdeka à Jakarta. Au cours de la réunion, le président Joko Widodo a souligné que l'ASEAN ne devrait pas être un représentant ou un mandataire d'aucun pays. Le président a souligné l'importance de la centralité et de l'unité de l'ASEAN qui doit être maintenue car c'est la principale capitale de l'ASEAN. Le président Joko Widodo a également souligné l'importance de respecter les principes démocratiques de droit international des droits de l'homme conformément à la charte de l'ASEAN. Le 13 février, le président Joko Widodo a reçu la visite du premier ministre de Timor-Leste, Taouk Matak Luar, au palais de Bogor, à l'ouest de Java. La deuxième réunion des chefs d'État a abouti à 5 protocoles d'accord. Le protocole d'accord comprend la création de zones économiques dans les zones frontalières, la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, la coopération dans le domaine du développement des ressources humaines et des capacités institutionnelles, la coopération technique industrielle et la coopération en météorologie, climatologie et géophysique. Le 21 février, le président Joko Widodo a lancé un programme d'aide humanitaire contenant 140 tonnes de nourriture et d'autres moyens logistiques pour aider les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie à la base aérienne Halim Perdana Kusuma à Jakarta. Via la chaîne YouTube du secrétariat présidentiel, le président Joko Widodo a déclaré que cette aide était l'engagement de l'Indonésie à poursuivre la diplomatie humanitaire. Il espérait que l'aide envoyée pourrait soulager les victimes. La diplomatie humanitaire est menée en permanence par notre pays, l'Indonésie. Et ce matin, nous envoyons 4 avions en Turquie et en Syrie contenant 140 tonnes de nourriture et d'autres matériels logistiques. Donc, on a vraiment besoin là-bas. Auparavant, nous avons vraiment envoyé une équipe de recherche et de sauvetage, une équipe médicale, un hôpital de campagne, un avion Hercules qui ont grandement contribué à l'évacuation initiale des victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Nous espérons que ce que nous envoyons pourra plus tard aider nos frères et sœurs qui sont là-bas.
Dan tim medis serta rumah sakit lapangan yang sangat membantu plus juga pesawat Hercules yang sangat membantu awal-awal evakuasi korban-korban bencana gempa yang ada di Turki maupun yang ada di Suriah. Kita harapkan apa yang kita kirimkan ini nanti dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di sana.
Le président Joko Widodo a en outre déclaré qu'auparavant, l'Indonésie a également envoyé une équipe SAR et une équipe médicale, ainsi qu'un hôpital de campagne. Un tremblement de terre mesurant 7,7 et 7,6 s'est produit le 6 février 2023, centré dans la province de Kahramanmaras, en Turquie. Des vibrations sismiques ont été ressenties jusqu'en Syrie et au Liban. Passons au mois de mars. Le 21 mars, le président Joko Widodo a inauguré le centre créatif pour les jeunes de Papouasie dans la ville de Jayapura en Papouasie. Lors de l'ouverture, le président Joko Widodo a déclaré que l'existence du centre créatif pour les jeunes de Papouasie, PYCH, dans la ville de Jayapura, dans la province de Papouasie, encourage la naissance de ressources humaines supérieures. Selon les besoins de diverses industries, à partir du secteur de la pêche, des applications, de la technologie, du monde de la mode, de l'élevage au secteur créatif. Le président Joko Widodo a souligné que la présence du centre créatif pour les jeunes de Papouasie encouragera chaque génération future en Papouasie et dans ses environs à être plus innovante en répondant aux divers développements actuels. De cette façon, elles peuvent profiter de chaque opportunité commerciale dans leur environnement de vie, devient quelque chose de productif. Le président est optimiste que l'existence de centres créatifs pour les jeunes de Papouasie permettra aux jeunes Papouasie de devenir des entrepreneurs à succès. Alam Emdat, la ministre des Affaires étrangères, Retna Marsoudi, a reçu à Jakarta la visite du ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Justin Tkachenko. Au cours de la réunion, le ministre des Affaires étrangères, Justin Tkachenko, a déclaré que son pays avait beaucoup à apprendre de l'Indonésie, notamment en matière d'indépendance économique et de bien-être de la population dans tous les domaines, y compris l'éducation et la santé. La réunion a discuté d'un certain nombre de questions, entre autres, l'accord de coopération en matière de défense entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a été approuvé pour ratification, l'accord sur la mise en œuvre de l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services, ainsi que l'accord de base sur les arrangements frontaliers. Selon Tkachenko, la Papouasie-Nouvelle-Guinée souhaite également renforcer la coopération entre les entreprises publiques BUMN des deux pays dans le développement de l'énergie, des mines, du pétrole et de l'électricité qu'il qualifie de domaines stratégiques pour encourager l'économie. Le 30 mars, la ministre des Finances, Sri Mulyani, a rencontré son homologue de la Thaïlande, Arkom Thermpitayapezit, à Badung, Bali. En mars, de la première réunion du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque centrale de l'ASEAN, AFMGM. Ils ont discuté de la coopération bilatérale entre les deux pays, entre autres le partage de connaissances ainsi que la coopération dans les domaines de la logistique et des douanes. Ils ont également convenu que les pays membres de l'ASEAN doivent réagir judicieusement aux problèmes bancaires aux États-Unis dans un contexte de pression inflationniste mondiale qui ne sont pas encore atténués.
Le 8 avril, le président Joko Widodo a reçu la visite du premier ministre de la République tchèque, Petr Fiala, au palais présidentiel de Bogor, Jaffa de l'Ouest. La visite faisait suite à la réunion bilatérale des deux chefs d'État à Bruxelles, Belgique, le 14 décembre 2022. À cette époque, les deux chefs d'État ont discuté de plusieurs collaborations dans les domaines de l'économie, de la défense et de l'industrie stratégique, ainsi que de la région Indo-Pacifique. Le président Joko Widodo a exprimé l'importance d'accélérer l'achèvement d'accords de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne, ou IEU CEPA, et réalisation des plans d'investissement des chèques en Indonésie. Le président Joko Widodo a également apprécié la participation tchèque à l'exposition Indo-Défense 2022 et a déclaré l'importance d'augmenter la coopération dans le secteur de la défense et l'industrie stratégique via la production conjointe, le transfert technologique et l'investissement manufacturier. En outre, le président a également invité la République tchèque à participer au forum sur les infrastructures Indo-Pacifique de l'ASEAN qui s'est tenu en Indonésie les 6 et 7 septembre 2023. Le 16 avril, le président Joko Widodo et le chancelier allemand Olaf Scholz ont officiellement inauguré la plus grande exposition industrielle au monde, Hanover-Messe, dans la ville de Hanovre, Allemagne. L'Indonésie a été sélectionnée comme pays partenaire de l'exposition industrielle. Le thème de la participation de l'Indonésie était « Making Indonesia 4.0 ». Outre l'ouverture de Hanover-Messe, la foire de Hanovre, le président Joko Widodo a également tenu une réunion bilatérale avec le chancelier allemand Olaf Scholz à la maison d'hôte de Bad Sachs, Hanovre, Allemagne. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsoudi, dans son communiqué de presse publié sur le site web du secrétariat du cabinet, a expliqué que lors de la réunion, le président Joko Widodo a souligné l'importance de réaliser des relations économiques égales entre l'Indonésie et l'Allemagne et l'Indonésie et l'Union européenne. Le président Joko Widodo demande le soutien de l'Allemagne pour que diverses réglementations de l'Union européenne, qui entravent la prospérité soient abordées et que les négociations sur un accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne, ou CEPA Indonésie-UE, puissent être achevées immédiatement. En termes d'investissement, le président salue la collaboration en comité mixte de l'économie et l'investissement germano-indonésien. En outre, le président estime que les investissements allemands en Indonésie doivent être concentrés sur les secteurs prioritaires, à savoir les industries orientées vers l'exportation, les énergies renouvelables et aval. Le 24 avril, le commandant de la TNI, l'amiral Yudo Margono, à Jakarta, a libéré 39 soldats pour évacuer les citoyens indonésiens pris au piège dans le conflit armé au Soudan. Le commandant a expliqué que la TNI a effectué plusieurs missions de ramassage dans les zones de conflit, à savoir l'évacuation des citoyens indonésiens en Afghanistan en août 2021 et l'évacuation des citoyens indonésiens en Ukraine en mars 2022. Le nombre total de citoyens indonésiens évacués avec succès au Soudan était de 955 personnes. Toujours dans l'événement Kaleidoscope 2023, nous commençons par les événements survenus en mai. Le 10 et 11 mai 2023, l'événement culminant du 42e sommet de l'ASEAN a eu lieu à Labuan Bajo, la province de Nusa Tenggara de l'Est. L'un des résultats du 42e sommet de l'ASEAN était lié aux intérêts des peuples qui étaient les principales préoccupations des dirigeants de l'ASEAN, notamment la protection des travailleurs migrants et des victimes de la traite des êtres humains. Concernant le renforcement de la coopération économique, l'ASEAN a convenu de construire un écosystème de voitures électriques et de devenir un élément important de la chaîne d'approvisionnement mondiale, faisant de l'aval industriel une clé. Le président indonésien Joko Widodo a participé au sommet du G7 au Japon le 20 mai. La réunion des chefs des pays membres du G7 avec leurs partenaires a discuté, entre autres, du changement climatique, de l'alimentation et de l'énergie. Le président Joko Widodo a souligné que l'Indonésie porte constamment la voix des intérêts du Sud ou des pays en développement et de la collaboration et du partenariat que l'Indonésie promouvra constamment. Lors de la conférence, des réunions bilatérales ont également eu lieu entre l'Indonésie et plusieurs pays, à savoir le Japon, la Corée du Sud, l'Angleterre, la France, l'Australie et d'autres. L'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère du Commerce, a participé à la 12e réunion du groupe de travail sur le commerce et l'investissement G20 Inde qui s'est tenue à Bangalore, en Inde, du 23 au 25 mai 2023. Lors de cette réunion, l'Indonésie a invité les membres du G20 à soutenir le programme de réforme de l'Organisation mondiale du commerce ou OMC. La principale priorité et la chose importante pour l'Indonésie concernant le programme de réforme de l'OMC est de sortir de l'impasse dans le fonctionnement de l'organe d'appel de l'OMC. Le 25 et 26 mai 2023, le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, a participé à la 29e réunion des ministres en charge du commerce, ou MRT, de l'APEC, à Détroit, aux États-Unis. Zulkifli a déclaré que la présence de l'Indonésie à la réunion du MRT visait à montrer son soutien au développement du système commercial, en particulier dans la région Asie-Pacifique, et à l'établissement de relations commerciales mutuellement bénéfiques. Lors de la réunion du MRT, un certain nombre de sujets abordés étaient le soutien de l'APEC au système commercial multilatéral, le développement des capacités intra-régionales et la facilitation des échanges. Outre la réunion du MRT, Zulkifli a également tenu des réunions bilatérales avec un certain nombre de membres de l'APEC concernant l'amélioration des relations commerciales et la mise en œuvre de la coopération commerciale. Passe au mois de juin. Le 7 juin, le président indonésien Joko Widodo et Madame Iriana sont arrivés à Singapour pour une courte visite de travail. Le président a participé à la semaine de l'éco-spérité 2023 organisée par la fondation Temasek. Le président Jokowi était conférencier et a contribué à promouvoir les investissements en Indonésie, notamment dans les domaines de la transition énergétique, des infrastructures vertes et du développement de la capitale indonésienne. Après avoir effectué une visite de travail à Singapour, le président est parti pour Kuala Lumpur, en Malaisie, pour effectuer une visite de retour et répondre à l'invitation du premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Le 19 juin, l'empereur Hironomiya Naruhito et l'impératrice Masako ont effectué une visite d'État en Indonésie. Cette visite visait à renforcer les bases de l'amitié entre le peuple indonésien et japonais. Le président Jokowi a admis qu'il se sentait très honoré parce que l'Indonésie était la première destination de la visite d'État bilatérale de l'empereur du Japon à l'étranger. Le chef de l'État a également souligné que l'amitié entre les deux pays doit continuer à se développer malgré les divers défis du monde d'aujourd'hui. Le satellite de la République d'Indonésie, ou Satria 1, a été lancé avec succès depuis Cap Canaveral, en Floride, aux États-Unis, le 19 juin. Satria 1 a été transporté par la fusée Falcon 9 de SpaceX. Satria 1 est le premier satellite super sophistiqué entièrement détenu et contrôlé par le gouvernement indonésien. Le satellite Satria 1 est utilisé par le gouvernement indonésien pour renforcer les réseaux internet et les services numériques sur 150 000 points, notamment dans les zones sous-développées, frontalières et ultra-périphériques. Le 21 juin, la révocation du statut pandémique de COVID-19 en Indonésie a été annoncée au Palais Merdeka, Jakarta. Avec cette révocation, l'Indonésie est entrée dans une période endémique. La décision a été prise dans le cadre de la révocation du statut d'urgence de santé publique de portée internationale pour le COVID-19 effectuée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Cette décision a également été prise par le gouvernement compte tenu du nombre quotidien confirmé de cas de COVID-19 dans le pays qui est proche de zéro.
Chers auditeurs, c'est tout le kaléidoscope général de janvier à juin 2023. Nous reviendrons demain avec le kaléidoscope général de juillet à décembre 2023. À bientôt.
Tak tahu di mana.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute.
Ces retards, le tourisme fluvial est une option de vacances anticonventionnelles qu'il est dommage de manquer. En plus de rêver et d'apaiser l'esprit, de nombreuses destinations touristiques fluviales en Indonésie proposent actuellement un tourisme d'intérêt particulier qui vaut la peine d'être essayé, comme le rafting. Cette fois, nous vous faisons découvrir plusieurs destinations touristiques fluviales en Indonésie. La première destination fluviale en Indonésie qui cible des touristes est la rivière Mahakam dans le Kalimantan oriental. Étant le deuxième plus long fleuve d'Indonésie, le fleuve Mahakam offre une agréable expérience de vacances fluviales. Cette rivière, longue de 920 km, abrite des animaux rares, comme les dauphins d'eau douce, connus sous le nom de Pesut Mahakam ou le dauphin Mahakam. En plus de cela, vous pourrez rencontrer des gambas, des calaos, des cigognes, des langurs et des loutres dans la rivière Mahakam. Ces auditeurs, outre les plages, Bali possède également une destination touristique fluviale intéressante à explorer, à savoir la rivière Ayung. La plus longue rivière de Bali, située à Ubud, est connue comme un spot de rafting en eau vive avec 6 niveaux de difficulté. Sur la rivière Ayung, vous serez également émerveillé par son eau claire, son air frais et ses vues imprenables. Parce que c'est si beau, la longueur du rafting en eau vive sur la rivière Ayung, qui atteint 10 km, semble très facile et agréable. Ces auditeurs, la prochaine destination touristique fluviale en Indonésie, qui est également intéressante à explorer, est la résidence de Pangandaran, à l'ouest de Java. Il s'agit de la rivière Cukang Taneuh, plus connue sous le nom de Green Canyon Dans la langue locale, Cukang Taneuh signifie pont terrestre. Son nom est basé sur le pont naturel qui prend sa source dans le sol et travers la rivière Cijulang. L'une des activités intéressantes à essayer sur la rivière Cukang Taneuh consiste à prendre un bateau pour explorer la rivière Cijulang. Tout au long du voyage, vous serez émerveillé par la beauté naturelle préservée et traverserez des grottes remplies de stalactites et de stalagmites. Ces auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre « Destination touristique fluviale en Indonésie ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Panjang puisi untuk menyuratkan cinta. cinta ini telah habis sudah. Cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia, telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cinta.
Serge Littar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter un étudiant indonésien remporte le prix étudiant de l'année à l'Université Rose. Un étudiant de Payakumbu, dans la province de Sumatra occidentale, qui s'appelle M. Indri Wanov, a réussi à devenir étudiant de l'année à l'Université technologique d'État de Moscou, Stankin, la Russie. Cette réussite est un symbole de lutte et de respect pour son père. Il a de grands espoirs de rendre fier le nom de l'Indonésie en Russie et dédier ses réalisations à son père décédé en 2023. Indri espère également que son succès pourra motiver tous les étudiants indonésiens à ne pas abandonner sous aucun prétexte, à rester enthousiastes et déterminés pour réaliser ce dont vous rêvez sans regarder l'origine d'une personne. Les réalisations d'Indri ont été reconnues grâce à sa contribution significative aux activités bénévoles, à son leadership dans les organisations du campus, ainsi qu'à ses résultats académiques élevés tout au long de l'année 2023, qu'il a obtenu grâce à son travail acharné et à son dévouement. Le chancelier de l'université Stakin, Vladimir Valerievich Serebriani, a déclaré son appréciation pour le succès de l'Andrei. Selon lui, pour obtenir ce prix est 100 fois plus difficile pour les étudiants étrangers en raison de la barrière linguistique qui les oblige à utiliser le russe dans chaque cours et activité organisationnelle, ainsi que des différences de culture d'apprentissage et des schémas de pensée entre les étrangers et les Russes. L'Université des technologies d'État de Moscou Stankin est l'une des principales universités de Russie, connue pour ses programmes académiques et de recherche innovants. Les anciens élèves de Stankin occupent des postes au sein du gouvernement russe, tels que Mikhail Mishustin, et l'actuel premier ministre de la Russie, et Dmitry Chernyshenko, le vice-premier ministre. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Aku bertahan suara. Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et cette fois nous vous présentons une chanson de Rosa. En tant que diva indonésienne, Rosa a produit de nombreuses chansons à succès et a reçu des multi-platinum awards et des million awards pour ses albums. L'un des meilleurs succès de Rosa s'intitule « Tegar ». Sortie à la fin des années 1990. La chanson écrite par Melly Goeslaw a des paroles poétiques et une chanson assez romantique. En 2019, la chanson Tegar aura exactement 20 ans. Pour commémorer cela, Rosa a collaboré avec plusieurs autres musiciens indonésiens pour rééditer une nouvelle version de la chanson Tegar intitulée Tegar 2.0. Sans laisser de côté la nuance d'agitation si étroitement liée à la version originale de la chanson, dans Tegar 2.0, Rosa veut transmettre ses sentiments de confusion dans un emballage différent. Dans la nouvelle version, la chanson Tegar a un arrangement plus joyeux. Bon, chers auditeurs, voici une chanson intitulée Tegar, chantée par Rosa. Bonne écoute!
Musique. aku untuk berpikir, dia yang tercinta, mengapa telah lama tak nampak dirimu di sini? Jangankan ingin ku tersenyum, tak ada gairah, ku ingin selalu bersamamu. Kini ku rasa diriku lemah tanpamu. Oh, gapai semua jemari, ku rangkul aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada di
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.